Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop de bien. Ça fait gonfler les jambes, allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sortait,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les touches fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est la culture. C'est pas intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez,
c'est cool.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, c'est
sorti.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis Lola, je suis avec Elio.
Bonjour à tous.
Pour commencer cette émission, nous voulions vous passer la chronique d'une bénévole Radio Campus, Estelle, issue de l'émission Validée. On écoute tout de suite la chronique « Le musée Maurice Dufresne et sa guillotine » sur Radio Campus Tour. Couvre.
Une curiosité se trouve au musée Maurice Dufresne près d'Azel Rideau et elle a de quoi vous faire perdre la tête. Elle fait une forte impression, cette structure mobile au milieu des machines agricoles, bus et fourgonnettes. Une guillotine. Elle date de la Révolution, 1792. Comme vous venez de l'entendre, c'est Joseph Ignace Guillotin, médecin et homme politique français, qui a fait adapter la guillotine comme unique mode d'exécution. Une invention française, donc, pour le châtiment suprême. Elle ne fit pas l'unanimité auprès de nos voisins européens. Guillotin a investi Tobias Schmidt, un facteur de clavecin, pour réaliser ce dispositif de décapitation. Platon ne disait-il pas « la musique adoucit les mœurs » Vous avez probablement reconnu la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles, une monarque caractérielle qui a la solution immédiate à chaque problème, la décapitation. Et lorsque Tim Burton adapte l'univers fantasque de Lewis Carroll, eh bien, on peut dire qu'il ne coupe pas les cheveux en quatre.
On leur coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !
Qu'on lui coupe la tête !
Qu'on lui coupe la tête !
Tricheur !
Falsificateur ! Qu'on leur coupe la tête ! Tous coupés la tête !
Ça suffit.
Gardons la tête sur les épaules et revenons en Indre-et-Loire. L'un des derniers condamnés à Tours fut Francesco Zeiro Finati, un Italien de 40 ans cimentier. Il aurait sauvagement assassiné une jeune prostituée, Suzy, en 1924, sous prétexte qu'elle lui aurait dérobé un billet de 50 francs. Installé sur le perron de la prison, la guillotine offrira une cérémonie expiatrice pour les badauds.
Comment ne pas perdre la tête ?
Chaque département a sa guillotine. Elle sera utilisée jusqu'en 1977, année de la dernière exécution. La veuve, pour la nommer par son sobriquet, aura servi pour 4 exécutions à Tours depuis 1914. Il faudra attendre le 30 septembre 1981 pour que la peine de mort soit officiellement abolie. Aussi surprenant qu'il soit, l'article de la Dépêche qui relate l'exécution de Finati à Tours s'attarde sur les conditions météorologiques de l'événement. Je cite « La nuit est superbe, la température est assez douce ». Si le ciel est bleu, c'est plutôt sombre côté peinture. Regard inexpressif, visage déformé, le guillotiné, tableau du peintre Théodore Gérigaud, se trouve au musée du Louvre. une œuvre beaucoup moins célèbre que le Radeau de la Méduse, mais non pas moins romantique de par sa thématique lugubre. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua, the battle of Jericho, hallelujah. S'il vous vient l'envie de découvrir d'autres objets tout aussi insolites, dans une collection hors normes dédiée à la sauvegarde du patrimoine, suivez les traces de Maurice Dufresne. Pour une envie d'avoir la tête ailleurs, rendez-vous au musée.
Nous avons voulu faire écho à la panthéonisation de Robert Badinter, ministre qui a porté l'abolition de la peine de mort en France. Il incarne un tournant dans l'histoire de France. Robert Badinter disait « Une société plus juste ne peut passer que par une dignité rendue à l'ensemble de l'humanité, et ce sans exception. Cette dignité, on la défend dans les lois, mais on la construit aussi sur le terrain, en donnant une seconde chance. » Après la théorie, passons à l'action concrète et solidaire. Nous accueillons Delphine Bréard, présidente de l'association Active. Bonjour.
Bonjour.
Et également, pour faire le lien entre vêtements de seconde main et revalorisation de vêtements de seconde main, nous recevons l'équipe de Light Friday avec Adam, Simon et Antoine.
Bonjour.
Hello.
Bonjour.
Salut.
Donc, concernant l'association Active, pour commencer, Delphine Bréard, pouvez-vous présenter l'association et également présenter votre rôle dans l'association?
Alors, une micro-correction, pardon, mais je suis directrice, c'est pas présidente, c'est pas tout à fait la même
D'accord.
chose, du coup je suis salariée. L'association Active, en quelques mots, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, 100% Tourangelle. C'est l'histoire de deux hommes qui ont eu envie de créer un espace où des femmes étrangères arrivées sur le territoire pourraient gagner en autonomie financière et donc avoir une activité pour s'insérer dans notre société. Et donc, ils ont commencé à collecter du textile et à le revendre à petit prix. Petit à petit, ça a grandi. Aujourd'hui, Active, c'est de la collecte de dons de textiles, jouets, vaisselle, vêtements, bijoux et de la revente à petit prix. Donc, on a deux friperies. L'une est à rue 153 rue Saint-François à Tours et l'autre est 155 rue Édouard Vaillant à Tours. Le cœur d'Active, c'est l'insertion. Donc, on accompagne aujourd'hui à peu près 25 personnes en insertion, essentiellement des femmes, avec notamment 15 nationalités différentes. Et notre credo, notre outil, c'est la seconde main. Donc, aujourd'hui, on a une vraie volonté de s'inscrire dans une démarche plus responsable. Voilà, aujourd'hui, on essaye de sensibiliser à la fois à l'achat de la seconde main, à la fois à la réduction, du coup, de la consommation, parce que c'est pas parce qu'on achète de la seconde main qu'il faut acheter trois fois plus.
Très bien. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la structure par insertion économique et comment la mettez-vous en place ?
SIAE, du coup, c'est donc structure par l'insertion de l'activité économique. C'est un peu particulier. En fait, on est une association. Du coup, on doit générer à la fois un chiffre d'affaires, donc par nos ventes, pour pouvoir payer les murs et les salariés qui encadrent les salariés en insertion. Et c'est aussi l'aide de l'État aujourd'hui pour nous aider à financer des postes de salariés en insertion. L'idée, c'est une transition. Ils passent par Actif quelques mois. On les accompagne dans un projet professionnel viable et durable. Et après, ils rentrent en gros sur le marché du travail.
Très bien. Selon vous, à partir de quel moment peut-on dire qu'une réinsertion est réussie ?
Il y a ce que l'État attend de nous. Et on est suivi au millimètre près sur les sorties dites positives. Donc, ça implique que la personne sorte de chez nous pour aller sur un contrat de CDD de plus de 6 mois, CDI ou formation qualifiante. Moi, après, plus personnellement, j'estime qu'on est sur du positif quand on a réussi à lever des freins sociaux ou professionnels par rapport à la personne. En tout cas, chaque petit pas est un pas vers l'avant et c'est ce qui est essentiel au final.
Au sein de vos équipes, on retrouve donc 70% de femmes. Y a-t-il une raison ? Est-ce un choix de votre part ?
Initialement, par les fondateurs, il y a plus de 20 ans, c'était un choix parce qu'il existait déjà des structures qui accueillaient des personnes étrangères et qui étaient là pour permettre à des hommes de travailler. Aujourd'hui, aider des femmes étrangères à travailler, c'est un véritable sujet. C'est souvent elles qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Ça reste encore, il y a la question de la culture. Et donc aujourd'hui, on essaie de petit à petit transformer ça et essayer de permettre à ces personnes de pouvoir avoir un travail, une indépendance financière et notamment une formation.
Donc vous mettez un point d'honneur sur la mixité culturelle. Est-ce une richesse pour vous de pouvoir échanger avec des personnes qui n'ont pas la même culture que la vôtre ?
Je ne vais pas vous le cacher, c'est un défi de tout instant parce que chaque phrase doit pouvoir être expliquée de mille façons différentes. Parce que 15 nationalités, c'est quand même pas rien. On a vraiment des personnes qui sont très éloignées de la langue française. Mais c'est hyper riche, c'est génial, c'est des rencontres incroyables. Et puis, c'est des destins de vie croisés aussi incroyables.
Au-delà des chiffres, comment mesurez-vous l'impact réel de votre travail sur l'estime de soi des personnes que vous accompagnez ?
On le voit au quotidien. On voit les personnes s'ouvrir petit à petit. On voit les personnes qui prennent confiance et qui commencent à prendre des initiatives. En fait, tout simplement, ça passe par là. En fait, on passe de être dans l'attente de consignes transmises par l'équipe encadrante à la prise d'initiative, et des projets qui évoluent et qui naissent même du coup des idées des salariés. Ouais.
Avez-vous pour objectif d'accueillir dans les années à venir plus de personnes en insertion professionnelle, peut-être liées à des ouvertures de nouveaux locaux, etc.
Alors on adorerait, mais la tendance du gouvernement est plutôt de couper le budget de l'IAE. Donc aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. L'objectif est surtout de continuer à exister. Et de résister autant qu'on le peut.
Très bien. Où récupérez-vous les vêtements ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous les sélectionnez ?
Alors, on a deux canaux, si je peux dire ça comme ça. On a la chance d'avoir énormément de tourangeaux, tourangelles ou proches alentours qui connaissent notre association et qui nous amènent directement les textiles ou même jouets, vaisselle, livres, voilà. Et après, l'autre canal, c'est qu'on essaie d'organiser des collectes avec des entreprises. Donc là, on cible un petit peu et c'est l'occasion de permettre de sensibiliser les salariés à l'interne.
Vous faites partie d'un grand réseau qui s'appelle Tissons la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi adhérez-vous à ce réseau et qu'est-ce que cela vous apporte dans cette association ?
Le réseau Tissons la solidarité a pour vocation de sensibiliser au textile de la seconde main. Et on est aujourd'hui adhérent parmi 70 structures qui sont des structures similaires à la nôtre, réparties sur tout le territoire. Et c'est super chouette de pouvoir échanger avec d'autres structures qui vivent des problématiques similaires. Aujourd'hui, vous allez en parler, j'imagine, après moi, mais c'est toujours plus de vêtements. Peut-être moins de bonne qualité aussi. Voilà, je pense que ça va être abordé après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un véritable sujet. On essaye de vraiment sensibiliser les personnes au fait que il ne vaut pas mieux acheter 10 t-shirts Shein plutôt qu'un t-shirt d'une bonne marque qui va durer pendant des années. Donc, y a ce sujet-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Tissons la solidarité, ça permet d'être ensemble et de pouvoir faire remonter auprès du gouvernement justement toutes ces problématiques et d'essayer d'avoir une voix qui porte un peu plus fort.
Est-ce que vous pouvez nous dire où partent les vêtements que vous ne vendez pas ou que vous n'utilisez pas ?
Alors aujourd'hui, nous, on a de la chance apparemment. Dans le secteur, on arrive quand même à revaloriser 30% du textile. Donc c'est quand même pas si mal. Les 70 autres, aujourd'hui, on a un partenaire, GBTEX, qui est en Normandie. Et qui, lui, va faire le boulot de trieur vraiment derrière. C'est énormément de salariés qui vont vraiment trier la matière, la couleur, et qui vont essayer après de revendre ça à tout petit prix, à des endroits en particulier, énormément en France, mais pas que. Je sais aussi qu'ils travaillent avec leurs voisins, Belges, Pays-Bas, et quelques autres pays comme ça qui sont frontaliers.
Il vous arrive également de donner du textile à des particuliers ou à des associations. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Quels sont les critères qui vous permettent d'envoyer ou non du textile ?
C'est vrai qu'on a tellement de textiles aujourd'hui, on essaye de redistribuer autant que possible. On a une partie bon d'achat de gratuité. En fait, il y a des travailleurs sociaux qui nous sollicitent pour générer des bons pour adultes et enfants, pour que les personnes qui sont voilà, en précarité puissent venir s'habiller et repartir avec une tenue, en gros, en venant à Active.
Très bien. Nous avons également vu sur votre site que vous proposiez, par exemple, des ateliers de couture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe, à quoi ça sert, est-ce que tout le monde est bienvenu ou il faut des connaissances précises pour eux? Y venir.
Alors malheureusement, c'est pas ouvert à tout le monde. On a un petit atelier couture. C'est vrai que c'est un véritable savoir-faire, la couture. Donc aujourd'hui, on a quelques salariés en insertion dans cet atelier. Donc on a un service en fait de retouche. Donc ça, c'est uniquement sur l'adresse qui est à Saint-François, mais c'est pour tous ceux qui veulent en fait aujourd'hui reprendre un ourlet de pantalon, raccommoder un bouton. Ils peuvent venir avec leurs vêtements. Et voilà, comme n'importe quel service de retouche, on propose ça, et évidemment à un petit prix. Et après, on a aussi plutôt un service de création. Donc là, on est sur de la création sur mesure. Donc voilà, si vous avez envie de faire de la récup de tissu et de nous faire une commande d'un tote bag derrière avec ce que vous avez apporté, bah, volontiers, ou des trousses, ou des reconfectionner des housses de coussin. Enfin voilà, l'idée est vraiment plutôt de confectionner avec, pour le coup, 100% de récupération de tout ce qui nous est apporté. Et c'est aussi un moyen pour nous de réutiliser ce qu'on n'arrive pas à vendre. On va récupérer les fermetures éclair, les boutons, les perles et tout ce qu'on peut imaginer, les anses, pour après reconstituer des choses.
Je vous remercie pour cette présentation. On va pouvoir y revenir en profondeur. On va faire une pause musicale sur 99.5 FM Radio Campus Tour. On écoute tout de suite Tommy de Jen et les autres.
Est pompé, j'ai fini par m'habituer. Y'a un an ou deux, j'aurais sûrement fait full paniquer. Dans le wagon entouré de fantômes et d'esprits mauvais, j'écris mes règles, maintenant je les force à les appliquer. Petite brune, petite taille, peu sociable, timide. Tu m'embrouilles dans la vitrine, marginale petite poitrine. J'en ai connu des bêtes, j'aurais voulu voir me noyer. Mais j'ai honné plus cruel à chaque fois qu'on tombe. On est passé par la forêt, on est passé par la ville. Et j'ai fini par te plaire et t'as fini par le dire. Mais j'en ai rien à faire, je veux seulement que tu reconnaisses que j'ai le talent et que je tiens tous ces chiens. Je t'aime, prends la casse, mon cul. On s'est pas été cette fois qu'on je t'aime, je t'aime, prends la casse, mon cul. On s'est pas été cette fois qu'on course poursuite dans une piscine remplie d'inconnus invisibles. Ça fait 100 ans je grimpe une colline pour échapper aux carabines. 100 ans que je vois plus la lumière, même si ça prend encore 100 ans. Je te jure d'arriver au sommet, je le fais pour quand j'étais gamine. J'étais gamine, je priais déjà pour que tu m'emmènes loin de là. Le soir je trouvais pas le sommet, mon seul espoir. Toutes les histoires que je faisais vivre dans ma tête, ces gens n'auront jamais mon cœur, ma dignité ni mes valeurs. J'ai toujours affronter mes peurs. On est passé par la forêt, on est passé par la ville. Et j'ai fini par te plaire et t'as fini par le dire. Mais j'en ai rien à faire, je veux seulement que tu reconnaisses que j'ai le talent et que je tiens tous ces chiens. Mais j'ai pas prendre un
Et vous venez d'écouter Tommy de Jeanne et les autres sur Radio Campus Tour 99.5. Vous pourrez retrouver l'artiste Jeanne et les autres sur scène en concert, habillé dans un ensemble confectionné sur mesure par Light Friday. Mais on en reparle juste après. Alors je rappelle que nous sommes en compagnie de Delphine Bréard de l'association Active, mais également de l'équipe de Light Friday que nous allons présenter tout de suite. Est-ce que pour commencer, vous pouvez chacun vous présenter et dire votre rôle dans Light Friday ?
Bonjour, du coup ça va être Arthur, je suis l'un des couturiers et gérants, parce qu'on est tous gérants dans le projet, on gère tous ensemble, donc voilà l'un des couturiers accompagné des autres.
Moi ça va être Simon et du coup également couturier designer chez Light Friday.
Bah moi c'est Antoine et pareil, là vous avez les, du coup les trois couturiers et il manque une personne qui n'a pas pu être là qui est Bastien, donc quand même un petit SO à Bastien, qui s'occupe de toute la partie un petit peu managériale. Et aussi la partie photo, images, réseau, etc.
Okay. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter ce que c'est Light Friday et tout ce que la boutique peut proposer, ce que vous faites ?
Antoine, vas-y si tu veux.
Bah, allez, ça roule. Alors Light Friday, c'est du coup un collectif d'artistes, entre guillemets, du coup les trois couturiers et Bastien à la photo. Donc nous, à notre atelier au 127 rue Colbert, ce qu'on fait, c'est de la confection de vêtements. Est prêt à porter et sur mesure. Donc on a nos lignes, on a plusieurs collections. En général, on a entre une à quatre collections par an, ça dépend. Mais à côté de ça, ce qu'on voulait faire, c'était aussi développer l'artisanat du coup de la couture et pouvoir rendre possible la création de vêtements en France. Donc on aime bien faire des pièces sur mesure, de la pièce unique par exemple pour des artistes ou pour des occasions spéciales, tenue de scène, tenue pour une photo en particulier, etc. On a aussi un atelier d'impression textile avec lesquels du coup on peut faire des t-shirts pour les associations, les entreprises ou les particuliers.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment vous récupérez, vous, vos textiles et est-ce que vous les triez vous-même ou est-ce que vous passez par d'autres organismes pour les trier ?
Alors, au tout début, lorsqu'on a commencé, on a débuté donc, avec de la récupération de textiles. Justement, on a eu un partenariat avec Active, Secours Populaire et la Croix-Rouge. Donc, dans nos débuts, on a beaucoup récupéré des vêtements afin de les démonter et de recréer quelque chose d'unique à partir de ça. Et au fil de notre évolution, sur notre parcours, on a rencontré un partenaire avec lequel on récupère en fait ce qu'on appelle des stocks de tissus dormants. Donc là, en gros, l'intérêt, c'est qu'avec ces stocks-là, on va pouvoir, pareil, revaloriser aussi, pas des vêtements pour le coup, mais vraiment du tissu qui est parfois amené à être incinéré. Donc ça peut nous laisser aussi une plus grande liberté de confection et pas toujours être sur de la pièce unique pour le coup. Après, on n'est pas toujours décisionnaire de ce qu'on va récupérer. C'est vraiment en fonction de ce qui est dans le stock et on crée à partir de ça. Donc ça, c'est intéressant aussi pour créer finalement parce que ça nous sort des fois de notre zone de confort. On va devoir créer avec le tissu en lui-même et la manière dont il nous inspire.
Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, vous basez principalement sur les matériaux que vous recevez pour concevoir vos pièces. Est-ce que ce nouveau système de fonctionnement, ça vous permet, vous, de rester innovant dans le travail et pas de revoir tout le temps la même chose ?
Bah déjà, ça permet d'apprendre. Parce qu'avec des tissus qui nous sont proposés et qu'on doit récupérer, on n'a pas forcément... Enfin, ça inverse un petit peu le processus créatif. Donc, des fois, on doit faire face à des tissus qu'on n'a jamais travaillés. Mais devant le fait de devoir les réutiliser, il va falloir du coup s'instruire sur les techniques de couture à utiliser pour telle ou telle sorte de tissu. Donc, ouais, c'est plutôt formateur, c'est plutôt cool. Des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on a une idée en tête et on aimerait pouvoir la faire comme on aimerait. Mais non, c'est cool. Jusqu'à maintenant, on s'est jamais ennuyé. Et comme je disais, ouais, c'est plutôt formateur.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer et expliquer aussi à nos auditeurs les différentes méthodes que vous utilisez pour confectionner vos pièces et peut-être les outils ou les machines nécessaires à cette confection ?
C'est un vaste sujet.
Ouais, c'est vrai que c'est assez vaste.
Les techniques que vous utilisez le plus ou que vous aimez, vous, particulièrement utiliser ?
Bah, sur la basse, ça va être vraiment la pratique couture, donc à l'aide d'une piqueuse plate, d'une machine à coudre.
Peut-être on peut le faire chronologiquement, vu qu'on a commencé... on est tous, on n'a pas fait d'école de couture ou d'école de mode. Ouais. Donc chronologiquement, au début, on récupérait des vêtements déjà faits et avec une seule technique de couture qui est le point droit et une seule machine qui est une petite machine familiale. On travaillait depuis notre appartement et avec cette technique-là, on a appris à assembler des vêtements les uns aux autres. Et après, au fur et à mesure, on s'est aperçu que juste une piqueuse plate, ça ne suffisait pas parce que pour la longévité du vêtement, c'était pas suffisant. Il faut une surjeteuse pour amener une finition supplémentaire, éviter que le tissu ne s'effile. Donc, en fait, on y allait petit à petit. On a acheté de plus en plus de machines. Plus de machines égale plus de savoir parce que ça permet d'aller plus loin. Chaque machine a un point particulier qui permet des coutures particulières pour des fonctions particulières. Donc, c'est un vaste sujet, mais on y allait du plus simple au plus complexe, en fait, au fur et à mesure. On utilise aussi pas mal de sérigraphie du coup pour venir un petit peu égayer certains tissus. C'est vrai que les tissus qu'on récupère, ils sont souvent dans des tons assez ternes, du gris, du bleu marine, du beige, du vert foncé. C'est des tissus assez classiques en général, donc on utilise la peinture, sérigraphie,
flocage,
ouais, plein de médiums, différents. Ce qu'on aime bien faire aussi, notamment Arthur, c'est venir un peu déchirer le tissu, un petit peu le maltraiter pour venir faire un espèce d'effet de texture sur des tissus lisses. Donc on peut coudre des tissus abîmés sur des tissus neufs pour donner de la texture, etc. Mais tout dépend du projet. On peut faire pas mal de choses.
Ouais, ça, selon les humeurs aussi, on va être forcément... soit il y a un projet dit et qui va nous diriger forcément vers une direction, sinon lorsqu'on a des temps libres, on peut être amené aussi à créer au feeling... soit ensemble, soit séparément sur des pièces différentes.
Et est-ce que ces méthodes-là, vous les avez apprises par vous-même ou vous avez, regardé des vidéos, observé des gens
Il y a un peu de tout. Déjà, effectivement, on s'est formé en faisant,
ouais.
en faisant clairement. Et puis, on est aussi de l'école, forcément, YouTube et Internet. Donc, grâce à des vidéos... On peut parfois tomber sur des techniques. Maintenant, sur les réseaux aussi, les contenus sont vraiment divers et variés. Donc, on peut tomber clairement sur des contenus couture et trouver des idées qui peuvent développer finalement notre perception, notre manière de créer, quoi. Donc, ouais, c'est un peu de tout ça.
Ok. Est-ce que il y a pour vous une envie au-delà de l'upcycling de créer des pièces originales qui défient les codes de la mode et l'industrie de la mode ?
En premier lieu, ouais, ça a toujours été une volonté d'avant tout créer des choses. Là aujourd'hui, on doit aussi forcément répondre à la réalité du secteur dans lequel on est. Donc, faut parfois aussi avoir des pièces qui puissent être portables. Et parfois, on peut justement prendre le pas de faire des pièces, ce qu'on appelle un peu plus des pièces de défilé, entre guillemets.
C'est pour ça qu'on aime bien habiller les artistes aussi.
Ouais, voilà.
Parce que là, il y a un truc qui me vient en tête, c'est quand on avait habillé du coup la copine de Flipper et Amor Fati,
ouais.
Sur leur clip, on avait fait un pull pour deux personnes.
Ouais.
Donc, ils dansaient ensemble dans le même pull avec une main chacun dans le pull, mais deux passages pour la tête. Donc, c'est des vestes comme ça qui, du coup, peuvent un petit peu contrecarrer ce qui existe déjà et s'émanciper, du coup, du juste le vêtement et aller un peu plus vers un truc artistique. Et ça, on kiffe le faire, mais en fait, ça suffit pas à vivre, malheureusement. Sinon, on ferait que ça. Enfin, je pense.
Mais c'est vrai que sur le processus créatif, c'est intéressant parce que... Lorsqu'on est contacté par un ou des artistes avec un thème particulier, encore une fois, ça nous sort de notre zone de confort et ça nous amène à aller vers d'autres champs, créer clairement de nouvelles choses. Donc ouais, c'est une bonne démarche. On a toujours voulu le faire, surtout aussi parce qu'on a plein d'artistes autour de nous qui gravitent, que ce soit dans la musique, les arts. Et finalement, pour nous, c'est normal que ce soit un carrefour où tout le monde se rejoigne entre textile, musique et art, quoi. Et puis, on a aussi cette volonté de vouloir agir sur le plan local et culturel. Donc, en faisant tous ensemble, on a cette possibilité-là, finalement, de développer la scène locale, quoi.
Vous collaborez aussi avec différents partenaires, j'ai lu ça sur votre site internet, pour récupérer vos matériaux et notamment avec l'entreprise Camille, si je prononce bien, située à Montbazon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce partenariat et pourquoi cette entreprise en particulièrement ?
Alors, effectivement, on a ce partenariat-là avec Camille. La vie a fait qu'au début du projet, on a eu l'occasion de rencontrer une des intermédiaires qui travaille là-bas, qui nous a mis en relation finalement avec la boîte. De base, ce n'était pas gagné du tout parce que c'était une initiative totalement personnelle de sa part. Donc ça a mis du temps avant que ce soit plus transparent, on va dire. Au début, c'était un peu sous le manteau. Parce qu'elle, elle voulait vraiment aussi agir sur ce plan écologique au niveau de son secteur textile. Donc voilà, ça a commencé par au début récupérer surtout des petites chutes, des petits coupons de test. Et au fil des années, la relation s'est un peu plus assise et ça nous a permis de récupérer d'accéder plutôt au stock dormant, donc des gros rouleaux qui de base sont utilisés par des grandes maisons et qui sont la plupart du temps délaissés. Donc et comme je le disais précédemment, ça finit incinéré. Donc pour nous, c'est important de pouvoir agir déjà à notre échelle et de cette manière là quoi.
Vous en parliez aussi tout à l'heure, juste à l'instant, mais dans le milieu culturel et plus précisément dans la musique, l'image de l'artiste, elle est assez importante. On vous a vu collaborer avec plusieurs artistes, Rat Cartier, Jeannet Les Autres, Sulka et d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une collaboration avec un ou une artiste et quels sont les projets que vous avez eu les plus plaisants à réaliser ?
Jeanne, pour le coup, par exemple, Jeanne, c'est elle qui nous a contacté de son initiative il y a quelques années. Maintenant, il y a peut-être 4 ans, je dirais. À peu près.
Ouais,
là, c'était très plaisant parce qu'on a pu l'accompagner, la suivre sur une partie de son développement artistique, lui faire plusieurs tenues. Donc, c'est plaisant aussi ouais, de voir clairement les artistes aussi s'épanouir et par la même occasion, par le travail qu'on fait aussi avec eux. C'est plaisant. Ouais.
Ouais, c'est ce qui est cool, c'est quand on va chercher un petit peu dans les émotions, dans la musique, ils essayent de retranscrire du coup des émotions avec des sons. Nous, on essaie de le faire avec du tissu. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est d'arriver à catch leurs envies et à les retranscrire dans une tenue. Et quand on y arrive, du coup, on voit l'artiste satisfait. Et je pense que c'est le meilleur truc pour nous. C'est ce qui nous motive le plus, voir qu'on a touché dans le mille avec une tenue qui décrit un projet, qui décrit une cover. Donc, je pense que c'est... Ça, c'est super gratifiant, en fait.
Ouais, créativement, c'est très stimulant en plus de ça, quoi. On va pas se mentir.
C'est vrai. Puis là, dernièrement, par exemple, en début d'année, on a eu Peyo, qui est un DJ aussi de la scène locale, plus sur la scène techno-art-tech. Et donc lui, il nous a contacté aussi de son initiative, pour le coup, encore une fois, pour une tenue de scène avec des idées précises. Il y avait tout un thème... autour de l'énergie, un peu l'électricité. Du coup, là, ça a été un challenge. Il a fallu faire chacun des croquis. Il a pu choisir parmi ce qu'on avait proposé. Ensuite, il y a eu une phase de sourcing pour trouver des matières qui peuvent convenir pour créer la tenue dite avec les lignes, parce que parfois, selon les lignes d'assemblage, ça peut être difficile avec certains tissus, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir des contraintes.
De ouf. Et puis selon l'utilisation qu'il va avoir aussi, par exemple, pour rester sur l'exemple de Peyo, DJ Art Techno, donc c'est pas quelqu'un qui est sur place quand il fait son travail.
Ouais.
On le voit sauter dans tous les sens, il bouge les bras, les trucs, les machins, donc il faut arriver à rester aussi dans l'utilité, tout en retranscrivant la... l'image qu'il a envie de montrer à son public. Donc ça fonctionne pour le choix de la coupe, mais ça a aussi une importance pour le choix des matières, etc. C'est un challenge plutôt complet. Et on est très fiers de la tenue qu'on a pu faire avec Peyo. Une tenue qui aura une petite sœur normalement.
Ouais, très bientôt.
C'est dans les, ouais, en gestation.
Et est-ce que c'est important pour vous d'utiliser vos savoir-faire pour la scène locale ? Vous avez cité plusieurs artistes locaux. Est-ce que c'est important pour vous ?
Oui. Ah bah oui. Ouais. C'est même le centre du projet. Pouvoir faire localement, nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et c'est ce qu'on a voulu instaurer. Oui, on est très fiers de ça et c'est même le cœur du projet,
ouais, c'est
de base.
Merci beaucoup pour cette présentation de Light Friday. On va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour. On écoute tout de suite Fine Amor de La Copine de Flitter, La Copine de Flipper, pardon, et Amor Fati.
Incroyable.
C'était Fine Amor de La Copine de Flipper et Amor Fati sur Radio Campus Tour 99.5. Vous écoutez l'émission Sortez et nous sommes toujours avec Delphine Bréard de l'association Active et l'équipe de Light Friday. Cette transition musicale nous renvoie encore une fois au travail de Light Friday, qui ont réalisé les textiles que vous pouvez voir dans le clip de Fine Amor, disponible sur YouTube. Et on va poursuivre cette émission avec des questions qu'on souhaitait vous poser à vous tous. Donc, nous avons rencontré vos associations au festival de rentrée. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller écouter nos podcasts « C'est la rentrée » sur Radio Campus. Je me permets de faire ma petite pub. Est-ce important pour vous de rallier votre cause à un public jeune, madame ?
Alors,
Oui, complètement, de s'inscrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, nous, je pense que une bonne partie de la clientèle est plutôt d'un certain âge, puisque c'est quand même une clientèle fidèle. On a cette chance-là. On a des personnes qui nous suivent et nous accompagnent depuis des années, qui ont décidé de s'inscrire dans cette démarche de d'achat local et de seconde main. Après, aujourd'hui, on a vraiment envie de toucher les jeunes de plus en plus. Et ça passe par des ventes éphémères qu'on propose une fois par mois dans les différentes universités. On a cette chance-là aussi. Mais voilà, petit à petit, il faut qu'on arrive à peut-être en modifiant un peu aussi nos réseaux pour s'adapter à cette jeunesse.
Je pense que ça se démocratise en plus. Déjà, il y a quelques années, bon, c'était plus niche, mais...
On a vu la différence voilà, hein, au fil du temps.
Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de jeunes qui sont sensibles à la seconde main, tout bêtement, à aller chiner, faire des brocantes, et tant mieux d'ailleurs. Mm. Et c'est vrai que pour nous, bah, c'est pareil, ça a toujours été important. Dès le début, on s'est dit que c'était logique d'essayer de sensibiliser déjà les plus jeunes, forcément, puisque
bah, c'est l'avenir.
C'est ça, hein, c'est la marche à suivre, donc... Donc oui, très important.
J'ai une question donc plus ciblée pour l'association Active. Vous accueillez également des écoles qui viennent visiter vos locaux. Qu'est-ce que vous leur montrez et comment peut-on faire de la sensibilisation avec un jeune public peut-être moins au courant des problèmes actuels de surconsommation ?
Bah comme vous l'avez très bien dit, Light Friday, y a vraiment cette dimension d'avenir. Enfin voilà, les jeunes, ça représente l'avenir. Aujourd'hui, on hérite d'erreurs qui ont été faites hein, par le passé, par des personnes plus âgées que nous. On ne va pas leur jeter la pierre, ils apprennent aussi en marchant. Mais du coup, aujourd'hui, il y a cette hyper-conscience de la nécessité d'agir pour notre planète et pour l'avenir. Donc si on veut... pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là, je pense que ça passe par la sensibilisation, notamment bah, du coup des jeunes à l'école, collège, lycée. C'est notre rôle à nous aussi actifs de pouvoir montrer. C'est vrai que c'est bien d'en parler, mais rien de tel que de voir des tonnes et des tonnes et des tonnes de textiles qui nous arrivent. C'est vrai qu'on peut recevoir jusqu'à 2 tonnes par jour, nous, de textiles. Donc, il faut se rendre compte, enfin voilà, quand vous sous-pesez votre t-shirt à la maison, dites-vous, il en faut quand même énormément pour arriver à 2 tonnes. Et ça, c'est pas une fois dans l'année, donc voilà, de pouvoir le voir, et puis bah, ça permet aussi de se rendre compte de ce que c'est aussi le tri derrière textile. Donc il y a toute cette dimension-là, un peu sensibilisation à la fois à la seconde main et en même temps à notre cœur d'activité qui est l'insertion, mais les deux.
Très bien. Light Friday, du coup, quel est votre public le plus fidèle? Quelle tranche d'âge à peu près?
C'est assez varié, honnêtement. Ça va quand même du lycéen.
Là, si on doit prendre la tranche d'âge de nos clients, ça va de 16 à 60 ans.
Ouais, c'est 70, ça, clairement.
Ouais, même 70, ouais.
C'est vrai que pas mal de fois, clairement.
Mais c'est vrai que bah, forcément, on attire et on est aussi plus à l'aise avec les gens de notre âge. Donc voilà, la vingtaine, quoi. Mais on a, en vrai, on a de tout. Et c'est ça qui est cool.
Ouais.
Sur un plan plus économique, comment faites-vous et sur quels critères vous appliquez un prix à vos vêtements?
Alors nous, Active, sur quels critères? Mais ça a été pensé. C'était pensé avant que je n'arrive par des personnes qui ont cherché à mettre un prix en lien avec aussi ce qui se fait en friperie. En fait, il y a une idée de s'aligner un petit peu avec les autres friperies solidaires. Moi, je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas forcément en tête les ratios. Mais bon, voilà, on peut retrouver un haut à 3-4 euros. Donc, on est sur des petits prix.
Bah, chez nous, ça a toujours été important, vu qu'on a cette volonté de ramener, de relocaliser un artisanat en France, c'était aussi important de le proposer avec une accessibilité finalement. Donc on met
un
point d'honneur clairement à essayer de baisser nos prix, parce que pour nous, ce n'est pas une finalité de proposer des pièces de designer, entre guillemets, et de les faire à hors de prix, en fait.
Des prix qui n'ont aucun sens.
Mais c'est un débat très long avec plein de pour et de contre. y a le niveau de l'image aussi, quand on rentre dans la catégorie de vêtements designer, comme l'a dit Arthur, le prix devient une image aussi.
Ouais,
et on a déjà fait ces frais-là de... vu qu'on essayait de rendre nos prix le plus accessible possible, en fait, on était mis dans des cases avec d'autres marques qui, eux, ne produisent pas leurs vêtements. Et du coup, on arrivait à des fois être moins cher qu'eux, voire à les mêmes prix qu'eux, alors que ça venait du coup de pays avec des normes de sécurité dans les usines qui sont pas les mêmes que celles qu'on a ici. D'où la réduction du prix de la main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que c'est un sujet un peu vaseux et... C'est un peu chiant. Le prix, en fait, ce n'est pas la qualité du vêtement.
Et c'est le prix. Le temps aussi, on va mettre dedans. Mm. Même si on essaye, comme on disait, d'avoir des prix, on va dire, un peu cohérents. Quoi.
Et on est vraiment content, justement, parce qu'à chaque fois qu'on a des clients qui passent le pas de la porte et qui viennent dans l'espace showroom, on a régulièrement ces retours positifs où les gens constatent que finalement c'est accessible et ils le constatent avec surprise d'ailleurs.
C'est vrai que les clients qui ont l'habitude de fréquenter du coup des marques indépendantes avec fabrication française, eux on se réflexe là de nous dire que c'est accessible. Après, c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. Oui. On a des amis aussi qui s'offusquent de pas trouver des pantalons à 40 euros, parce que ils n'achètent pas d'un pantalon plus cher que 40 euros neuf. Il faut gentiment leur expliquer que 40 euros, bah, c'est le prix du tissu à plat. Ouais, donc si tu veux que le tissu devienne un pantalon, il faut aussi payer les artisans qui le font. Et puis il faut du fil, il faut de l'électricité, il faut payer de l'eau. Enfin voilà. C'est un très long débat. On essaie de défendre ça sur le long terme. Et
un long défi, on va dire.
Ouais, c'est un défi, ouais.
Quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes dans votre activité ?
Bah, le fait de faire ce qu'on fait avec conscience, déjà depuis le début, c'est ce qui nous a amené à créer le projet. C'était un constat de tout ce qui nous entourait dans le secteur dans lequel on voulait opérer.
Constat d'urgence, ouais.
Ouais, exactement. Donc essayer d'agir différemment et mieux, et encore une fois à notre échelle avec nos moyens en fait, parce que forcément on va pas se mentir, même si au départ on était plein de bonne volonté et d'étoiles dans les yeux en se disant on va faire le truc le plus clean possible, on reste dans le secteur textile et avec les moyens qu'on a, malheureusement on a des contraintes, des fois on peut pas tout réinsérer. Il y a plein de difficultés des fois, mais le plus important, c'est d'essayer déjà de le faire et de sensibiliser, en fait, parce que on s'est dit qu'on avait ce rôle à jouer. Si on a de l'impact autour de nous, il faut essayer de propager quelque chose de positif, en fait, dans la manière de le faire, en fait. Voilà.
Et donc, vis-à-vis de des problèmes de société actuelle que rencontrent le textile et toute l'industrie, quels sont vos plus grands défis que vous rencontrez aujourd'hui ?
Se battre contre le géant à 10 têtes.
Ouais, hein, c'est clairement
l'industrie
ça.
L'industrie textile, quoi.
Oui.
Parce que comme on l'évoquait, que ce soit pour le fait d'éduquer le consommateur, le sensibiliser, c'est toujours difficile parce que... comme le disait Antoine, si en face on a des entreprises qui font de la surproduction et qui sont forcément en capacité de réduire leurs coûts un max au détriment de bien des choses.
La qualité.
Ça peut être la qualité, le traitement des salariés, exactement. Etc. Eux, ils gagnent forcément le pas parce qu'ils arrivent quand même des fois à... Pour le coup, c'est dingue, hein, parce qu'ils arrivent même parfois à avoir quand même des tissus de qualité et à un prix, en le produisant fois 10 000... on peut avoir la pièce à un prix très, très accessible, quoi. Et en plus parfois stylisé, parce qu'ils travaillent avec, vu qu'ils ont des moyens, ils travaillent avec des designers, donc c'est un peu la difficulté aussi, c'est sortir la tête de l'eau par rapport à tout ça, mais je pense que plus on avance, plus les gens, grâce à l'accès à l'information, les gens deviennent de plus en plus conscients finalement du monde qui les entoure, donc je reste positif et
montrer aux gens que l'artisanat français n'est pas mort.
Et vous, Delphine Bréard, peut-être sur, sur cette notion?
Bah, je suis bien d'accord avec eux. Je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître la valeur, la compétence, en fait, justement, de ces personnes qui ont un véritable savoir-faire et qui, ouais, qui ont pu le travailler. Il y en a pour qui c'est inné, il y en a d'autres qui le travaillent. Mais en tout cas, moi, je fais partie de ces consommateurs qui sont prêts à mettre le prix. Pas un prix incohérent, justement, mais justement le juste prix qui est de reconnaître que la personne, elle a travaillé derrière et qu'en effet, un pantalon, bah, c'est pas juste un morceau de tissu, c'est quelqu'un qui a designé le pantalon, qui a choisi le tissu, qui l'a découpé, qui l'a créé, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous, notre combat, c'est le même, c'est continuer à sensibiliser les donateurs, les consommateurs, c'est continuer à essayer de marcher vers plus de local, plus de responsabilité dans ce qu'on consomme et dans ce qu'on jette même, en fait, d'ailleurs. Ça passe aussi par le tri de ce qu'on jette.
Oui. Vous l'avez un peu dit juste avant, mais est-ce que vous trouvez que les mentalités, quand même, de nos jours, évoluent sur tous ces problèmes-là actuels de l'industrie du textile?
Ça va dans les deux, ça évolue, mais c'est vrai que ça évolue dans les deux sens. Donc, il y a deux extrêmes qui se tirent un peu, ouais, qui se confrontent, exactement. On a vraiment ceux qui, par exemple, disent « mais moi, je m'en fous, ce qui compte, c'est mon portefeuille et mon pouvoir d'achat. » Donc, il y a aussi des points qu'on ne peut pas leur enlever, qu'on ne peut pas sauver à titre personnel, on ne peut pas sauver le monde. Donc, il y en a qui baissent les bras très, très tôt, très, très vite, et qui se disent que... du coup, c'est plus bénéfique pour eux de pouvoir acheter plusieurs pièces avec un billet de 100 € plutôt que de ne pouvoir acheter qu'un seul pantalon. Mais on voit aussi tous les jeunes qui sont conscients de plus en plus tôt de tout ce que ça
engendre.
Donc, en vrai de vrai, nous, on est confrontés aux deux cas de figure. On s'entoure aussi des gens qui sont sensibles à notre projet. Donc, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça. Mais en vrai, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Ça va dans les deux sens. Oui.
Et est-ce que si vous aviez un message à un auditeur qui souhaite consommer de manière responsable et s'engager aussi socialement sur ces questions-là, ça pourrait être quoi ce conseil que vous lui donnez?
Bah, d'acheter une machine à coudre. C'est le meilleur moyen d'être responsable, autonome et de faire durer ses vêtements.
Et de comprendre
ce que ça implique de coudre.
Ça implique vraiment.
Mm-hmm. Oui, puis avant c'était une notion, c'était appris.
Dans tous les foyers, il y en avait une.
Enseigné à l'école et tout le monde quand même à peu près ça avait des notions de couture. Et finalement, bah, c'est comme tout, c'est savoir un petit peu bricoler, ça te permet par exemple de déjà améliorer. Ton quotidien, là où tu vis, si tu as besoin de revaloriser justement tes meubles, bah tu peux le faire. C'est pareil avec tes vêtements finalement. Donc ouais.
Freiner l'hérésie de la consommation et faire durer les choses en les réparant, en sachant comment elles sont construites. Dans tous les cas, c'est que gagnant. C'est instructif pour soi et en plus pour tout ce qui t'entoure, c'est bénéfique. Donc ouais, acheter des machines à coudre.
Ouvrir les yeux ouais, sur... être vif, bien se renseigner aussi sur ce que tu consommes, que ce soit alimentaire ou autre, à qui tu donnes ton argent, même si des fois, bien sûr, ça c'est limite parce que c'est difficile. Tu peux pas non plus, des fois, tu es obligé d'aller consommer chez telle ou telle enseigne pour te nourrir, par exemple, mais tu peux aussi te renseigner ouais, sur certaines marques, voir l'impact qu'ils ont et du coup, bah, te détourner de certaines consommations, par exemple.
Et pour Active ou Light Friday, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, un dernier sujet peut-être, ou message que vous vouliez véhiculer?
Continuer d'aller chiner des vêtements dans les assos du coup qui font le travail de récolter et de trier les vêtements. Je pense que c'est le meilleur moyen de développer son style aussi. Arrêtez de manger ce qu'on vous met dans la bouche et essayez d'ouvrir un peu votre horizon et vous verrez qu'il y a des pépites de bien meilleure qualité dans les bacs de ce genre d'association, contrairement à ce qu'on vous propose en rayon.
apprenez à vous projeter avec vos vêtements. Un vêtement, ça dure pas 6 mois ou 1 an. C'est beaucoup plus long. Donc,
ouais, ça, on le voit, hein, quand tu t'habilles avec des vêtements de fripe, ils ont déjà fait toute une vie et toi, tu continues à prolonger.
Exactement.
Ça. Donc, et puis, c'est intemporel. De toute façon, s'habiller, il n'y a pas de... Même la mode, des fois, on nous demande, vous faites quel style de vêtements, mais il n'y a pas de style, c'est juste on crée des choses, tout comme quand tu t'habilles, tu composes et tu crées...
Arrêtez de suivre la mode aussi, ouais. Vraiment.
Delphine Breyer, peut-être
un petit mot, oui. Je rejoins ce qui a été dit. En tout cas, continuez à donner ce que vous n'utilisez pas aussi. Ça, c'est important que ça ne donne pas dans les placards. Il y a vraiment, enfin voilà, il y a plein de structures, il y a plein de personnes qui savent quoi en faire, donc allez-y. Et continuez à acheter local, c'est super important. Et c'est essayer de vous dire aussi, parce que vous avez parlé tout à l'heure du coût, et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient, notamment chez les jeunes, c'est pas facile de se dire qu'on va mettre 100 euros dans un pantalon. Mais combien vous coûte le nombre de pantalons que vous mettez? Et justement, vous parlez de durée, et c'est vraiment ça, c'est un moment quand on achète un t-shirt... qui est de mauvaise qualité, au final, après 3 lavages, si c'est pour être balancé, qu'on en a acheté 15 dans l'année, je me demande quand même si on n'en revient pas au prix du t-shirt qui serait de bonne qualité et qui vous accompagnerait sur plusieurs années. Donc,
voilà. Merci à tous pour votre participation. Cette émission est à retrouver demain midi sur nos ondes, mais aussi en podcast sur radiocampustour.com. On se laisse sur une dernière touche de musique avec « Quand j'étais petit » de Sulca, un artiste tourangeau ayant également reçu les services de Light Friday pour créer une tenue suite à la sortie de son projet Je finirai demain. On écoute ça tout de suite et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Merci.
Merci.
Je veux sortir là. Allez là.
Ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les
gens. J'adore sortir. Moi je sors tout le temps.
Mais putain,
ça sortait. Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les touches fermes sortaient.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. Oui, la culture.
C'est pas. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez. Sortez.
Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Au chien bleu.
Sortez.
Veuillez sortir.